Bonjour, je suis Myriam, actuellement en formation de médiateur social accès aux droits et aux services. Nous sommes, Noah et moi, allés à la rencontre de Mireille, directrice de l'Étoile du Sud, une structure qui œuvre pour l'accompagnement et le soutien des habitants à travers différentes actions sociales et culturelles.
Bonjour Mireille.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous présenter l'Étoile du Sud ?
Oui, bien sûr. L'Étoile du Sud, c'est un centre culturel placé au sud-est d'Amiens, dans ce qu'on appelle la vallée du Val d'Avre, en fin de compte. Et c'est un centre culturel dédié aux cultures urbaines.
Pourquoi et comment cette structure a été mise en place ?
Alors, le pourquoi, ça date d'il y a à peu près plus de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'Amiens, c'est une ville très culturelle. Il y a plusieurs lieux culturels qui appartiennent à Amiens Métropole. Hein. Alors, je pourrais vous citer au nord le Safran, à Longo, Picasso, à Camon, les Nymphéas. Et il manquait un lieu au sud, et du coup, ils ont créé l'Étoile du Sud, mais ça n'a pas démarré comme un centre culturel. Ça a été d'abord une maison de quartier, puis un centre un peu socio-culturel, et c'est devenu un centre culturel, donc la date je ne l'ai pas, mais c'est devenu un centre culturel.
Et dans ce lieu, quel type de personnes accueillez-vous au quotidien ?
Alors moi, j'ai envie de vous répondre que normalement, on ne devrait pas se poser la question. Un lieu culturel, c'est ouvert à tout le monde. Il y en a qui font peur et c'est plutôt un peu le musée de Picardie. Il y a des grandes grilles, des grandes marches, c'est institutionnel. Ici, ça l'est moins. Pour autant, tout le monde ne passe pas la porte.
Quelles sont les principales missions de vos structures ainsi que les objectifs ?
Alors, la mission, c'est d'abord une mission de médiation et de faire connaître la culture, de découvrir, pour ma part, les cultures urbaines, ce qui n'est pas une chose facile, mais c'est réellement, c'est la culture en général. On croit souvent qu'on n'y connaît rien, mais la culture, c'est vaste. Il y a la musique, il y a la cuisine. On est dans un endroit qui brasse des populations qui viennent du monde entier et tout le monde a une culture, donc c'est important. Et puis la culture, ça devrait rassurer.
Quels sont les partenaires avec qui vous travaillez au quotidien ?
Alors moi, c'est justement ce que j'adore faire, travailler avec des partenaires. Tout seul, on fait pas grand chose en fin de compte. Moi, je suis arrivée il y a à peine 2 ans, mais partout où j'ai travaillé, j'ai toujours été chercher des partenaires pour enrichir l'offre. Alors cette année, comme partenaire, j'ai eu les musées d'Amiens. Voilà, le directeur des musées est venu, a fait une mini conférence qui était juste magnifique, accessible à tous. La maison Jules Verne où pendant les journées du patrimoine un graffeur est allé faire un graphe en direct pendant que les gens attendaient pour aller voir cette belle maison. Ça peut être ce week-end, ça va être le PSM de la Somme pour travailler sur tout ce qui est tout ce que sont la santé mentale. Ça peut être les premiers partenaires, les associations qui sont autour de moi, l'association L'un et l'autre, l'association USCVA. Ça peut être les centres de loisirs, le jardin archéologique de Saint-Acheul. Il y a toujours un moyen de travailler en partenariat. Après, les écoles, forcément. Les petits, les grands, on travaille avec l'université aussi. Donc vous voyez, voilà, on peut travailler avec tout le monde.
Comment définiriez-vous les valeurs de l'Étoile du Sud ?
Les valeurs de l'Étoile du Sud, l'accueil, la bienveillance et l'ouverture.
Est-ce que tu dirais que la médiation culturelle est vraiment au cœur du projet de l'Étoile du Sud ?
Oui. De toute façon, normalement, quand on a... La médiation, c'est faire le lien entre l'œuvre et le public. Donc oui, on n'est pas au musée, on n'a pas des collections tous les jours, mais là aujourd'hui il y a une belle expo et c'est notre façon de faire de la médiation. Après, l'autre type de médiation qu'on peut faire, c'est d'accueillir des stagiaires, c'est aussi de la médiation. La médiation, elle peut se voir à travers différents supports, puisqu'il faut multiplier les supports pour mettre en face le public. Donc voilà, c'est un peu le thème de notre exposition. On accueille en intérieur des street artistes et tout compte fait, le street art, sa première valeur, c'est d'être dehors. Et là, voilà, on a fait un petit clin d'œil, on s'est décidé de les accueillir à l'intérieur, et à l'intérieur de l'intérieur, puisque l'exposition s'appelle « Apart », comme l'art, « Ap », « Art », « Cité ». La cité, c'est-à-dire là où les graffeurs sont, et puis appart comme appartement, voilà, donc on a créé un loft dans lequel on accueille 3 artistes locaux.
De quelle manière incluez-vous les habitants du quartier dans les actions de votre association ?
Alors écoutez, ça tombe très bien, puisque par exemple aujourd'hui, et tous les premiers vendredis du mois, alors vous allez me dire, on n'est pas le premier, on est le deuxième, mais des fois le calendrier, c'est... voilà. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une opération qu'on appelle le café étoilé. Et elle est ouverte à toutes, sans inscription. Il suffit de venir passer une heure de son temps et de créer quelque chose avec ses mains. Peu importe nos compétences, le but c'est d'apprendre ensemble, c'est de partager, c'est de rigoler, c'est de boire un petit café.
Est-ce que vous avez un parcours inspirant qui est passé par chez vous, l'Étoile du Sud ?
Ah, il y en a plein, comme je vous parlais de l'exposition, il y a un parcours un peu atypique par rapport aux autres graffeurs. Je pense à Rimka, parce que c'est un monsieur qui se lève tous les jours vers les 5h du matin, qui fait son taf jusqu'à 15-16h, et puis sa passion c'est de graffer. Et quand je suis arrivée à l'Étoile du Sud, quand on visite l'Étoile du Sud et surtout le studio de danse, les gens sont juste étonnés de ces fresques qu'il y a au mur, mais c'est ce monsieur. Voilà, ce monsieur qui tous les jours se lève très tôt pour nourrir sa famille, et puis sa passion, ben, quand il le peut, il s'exprime sur les murs, et j'ai voulu lui donner sa chance dans cette exposition.
De quelle manière touchez-vous les jeunes qui ne fréquentent pas spontanément les lieux culturels ?
Alors, ça c'est difficile. En fin de compte, on fait des ateliers à l'année. On a différents types d'ateliers, la danse hip-hop, le breakdance, la danse Bollywood, la danse alors orientale, mais c'est plus pour les adultes. On a les dessins, on a la MAO. Ça, je dirais que c'est assez facile, parce que c'est un atelier à l'année. On vient tous les mercredis ou tous les jeudis, peu importe. Ensuite, on fait des stages pendant les vacances, voilà, jusqu'à 11-12 ans. Vous êtes jeune, c'est souvent nos parents qui nous inscrivent dans les cours. Et puis après, il y a une tranche d'âge que, alors, j'ai du mal à toucher, mais que tous les services culturels ont du mal à toucher. C'est celle qu'on appelle maintenant pré-ado et ado. Allez, on va dire 13-17 ans, où ben, voilà, même si les parents leur disent « voilà, va faire ça », on leur laisse le libre choix, et du coup, c'est vraiment assez compliqué. Alors, nous, on a essayé Instagram, on a essayé Facebook, enfin, on essaie, on fait des flyers parce qu'il faut quand même avoir un peu de papier, on fait du porte-à-porte de temps en temps, on s'appuie sur les associations de proximité, mais c'est vraiment un public qui devient de plus en plus compliqué, et compliqué parce que ben, y a Internet. Parce qu'un écran, on croit qu'on peut tout faire. Vous savez, j'ai eu un parent qui est venu pour inscrire son enfant en danse et qui m'a dit « mais il est hyper doué pour la danse ». Donc moi, je le crois, sur parole. Et puis tout compte fait, ben, il est hyper doué dans ce qu'il reproduit façon TikTok, mais il n'a aucune technique. Quand on lui dit « fais tel pas », il ne sait pas de quoi on parle. Et ben, ce gamin, c'est dommage, il n'a pas persévéré, il est resté 3 cours, parce qu'en fin de compte, ce qui l'intéressait, c'était juste de danser devant un miroir et de reproduire les choses. Et c'est ça que ça crée aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression d'avoir, je ne sais pas moi, 10 millions d'amis, et puis je pense que si on appelait un seul de ces 10 millions d'amis, il ne serait pas là pour nous.
Et enfin, comment vous mesurez l'impact de vos actions envers votre public ?
Alors, de différentes façons, il faut compter. Voilà. Combien il y a de personnes dans cet atelier. Alors, il ne faut pas se fier sur une année. Je vais vous donner un exemple. On avait, dans notre plaquette de l'an dernier, on avait un atelier qui s'appelait dessin-peinture. Voilà. Et il y a eu 2 inscrits. Du coup, j'ai changé l'intitulé, j'ai changé la manière de présenter cet atelier. On l'appelait les ateliers de Blandine. On a changé les horaires aussi. On a adapté les âges, puisqu'on s'est dit peut-être que l'âge ne correspond pas. On s'est appuyé sur ce que les gens recherchaient. On a interrogé aussi les habitants. Et tout compte fait, on n'a que 2 inscrits. Donc vous voyez, il y a des moments dans la vie où on se dit, ben, même si on disait c'est gratuit, on vient chez vous le faire, ben, c'est pas pour autant que les portes s'ouvriraient. Donc bon, je vais creuser encore un peu, mais c'est juste dommage. Mais on est sur une société de consommation. Vous savez, les gens, ils ont votre plaquette dans la main, ils sont capables de vous dire, oui, mais on ne sait pas ce que vous faites. Et donc, ben, vous avez la plaquette dans la main, donc ouvrez-la, puis vous verrez ce qu'on fait.
Merci à Mirette d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Dans le prochain épisode, nous retrouverons les élèves de l'école de la Deuxième Chance pour découvrir leur parcours et leurs expériences.